20h, 21h, Time Food spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et nouvelle semaine en ce lundi à 5 février 2024. On est ensemble jusqu'à 20h, chers auditeurs et auditrices, rien que pour parler de football et pas que, la Coupe d'Afrique des Nations. Au menu de cette émission, on va revenir sur quoi? Sur Lyon qui enfonce l'Olympique de Marseille hier, justement, du côté de la Vallée du Rhône. On reviendra sur Brest, ce club qui encourage le football français et pas que. Et sans oublier le Paris Saint-Germain, tout revient à la normale pour les hommes de Luis Enrique. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Tam Sport. Voilà, sans plus tarder, on va commencer en rappelant le débat du jour. Marseille est-elle en crise, cette équipe, en 2024? Depuis le début d'année, Marseille n'a pas gagné. Voilà, c'est le débat du jour, on le rappelle, le 01 53 48 3000, c'est le numéro 2 du standard. Allez, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Il est pour parler.
Ce soir, on sera en compagnie de Boula, notre Boula national, sans oublier Moha. Comment ça va, Moha? Ça va bien?
Ça va très bien, Bilal. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va passer un excellent début de semaine. Et très heureux d'être là pour le début de la semaine sur Time Foot.
Ah ben, nous aussi, on est heureux de t'avoir avec nous en ce début de soirée, ce lundi soir. Augustin, pour cette première. Bonsoir, Augustin.
Bonsoir.
Comment ça va?
Bonsoir, très bien. Et vous-même?
Ouais, ça va très très bien.
Ravi d'être là.
Ah ben, nous aussi,
dans
de t'avoir avec
équipe.
Nous.
Ouais, c'est ça. Voilà, on va essayer de contribuer un peu.
Il était amoureux du sport et pas que, Augustin. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Grave. D'ailleurs, des fois, on pourrait te retrouver avec les informés d'Adil Farkan.
Exactement.
Ça. Mais là, il est avec nous ce soir.
Voilà, ouais. Avec plaisir.
Ah ben justement,
c'est un plaisir d'être là parmi vous.
Ah ben nous aussi, c'est un plaisir. Juste à côté de toi, on pourra retrouver Boula, un petit clin d'œil aussi à Amine ce soir qui nous accompagne dans ce magnifique studio. Et aussi le petit bonsoir à Solal à la réalisation. Bonsoir Solal.
Buonasera a tutti, chers amis. Tellement heureux d'être là chaque soir avec cette équipe magnifique qui forme ce plateau.
Comment ça
Bilou,
va?
Bah franchement, tout se passe super bien quand je suis ici. J'ai la banane.
Ah ben oui.
Écoutez, on va parler de beaucoup de choses. De
c'est
Lyon,
ça.
Forcément, qui enfonce l'OM, de Brest. Le PSG revient à la normale, c'est la question. Vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Ça va, Boula?
C'est ça.
Alhamdoulilah, tout va bien.
Tranquillement, Boula.
Une petite dédicace à mon neveu.
Ouais, mon neveu
Ryan
de Boula.
Et Aymen et sa petite princesse.
Ah ben ça c'est super.
Bisous à tous.
Ah ben voilà, à la famille de Boula. Moha, on va s'attarder sur le 1-0 de Lyon hier soir sur ses terres face à l'Olympique de Marseille qui déçoit beaucoup cet Olympique de Marseille en ce début d'année 2024.
C'est deux équipes qui se croisent un peu, Lyon un peu plus en bas de tableau,
ouais.
Mais qui se croisent sur un pic de méforme assez impressionnant. Moi j'étais pas du tout surpris de la prestation des deux équipes, dans le sens où c'est Marseille est dans une continuité, dans une certaine médiocrité, et l'OL est totalement déchiqueté par des nouveaux arrivants, par un entraîneur pas extrêmement expérimenté. Après bon, il fait du bon boulot depuis qu'il a repris ce club.
Ça fait un moment.
Donc non, ça m'a pas du tout étonné, surpris que Lyon prenne l'avantage, surtout que Marseille retrouve ses cadres qui étaient partis pour la Cannes. Je pense à Unai, à Harit, qui font pas un excellent match, hein, malheureusement. Il y avait vraiment personne sur le front de l'attaque, c'était le néant, pas possible. Mais moi, j'ai vraiment apprécié un seul truc, Bilal, quelque chose dont on a discuté sur Time Foot il y a quelques temps, c'est l'arrivée de Matic. Matic, il est adoré au milieu de terrain. C'est sécurisant. Je suis très pressé de voir, en fait, le long terme de ce joueur-là chez les Lyons.
Ouais.
Chez
Lyonnais, Augustin, pardon. Lyon qui l'emporte, qui sort
Lyon,
de la zone
Lyon
rouge.
Qui l'emporte, qui profite d'un Marseille convalescent depuis déjà quelques mois, depuis la blessure de Rongier, je pense. C'était un métronome. J'espère qu'il va revenir bientôt, mais apparemment c'est pas pour bientôt. Hein.
Ouais.
Mais espérons que... Bon, c'est un match un peu soporifique. Marseille a récupéré ses canistes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui étaient déjà un peu émoussés, un peu ébranlés, un peu fatigués. Je suis pas sûr qu'il était bon de les mettre sur le terrain. C'est un match où Lyon a gagné parce qu'ils ont renforcé qualitativement, en tout cas pour l'instant, sur le terrain les preuves de vérité avec le résultat. Comptablement, c'est très bien pour eux. Ils sortent d'une zone rouge. Et Marseille qui voit son championnat aller dans le ventre mou et être à 12-13 points, je crois, de la relégation. Et à 7 points de Brest, qui est un club étonnant.
Ouais. Attention Marseille. Marseille à la 8ème place, hein, voilà. Qui prennent 29 points. Et oui, en 20 matchs. Et c'est vrai que les Lyonnais, juste derrière, hein, à la 15ème à 19 points. Boula, un mot. Et oui. Augustin le disait, attention Marseillais.
Je suis content qu'Augustin
il a soulevé
le manque de, ouais, de Rongier qui est pas là depuis voilà, parce que Rongier ça reste quand même un des joueurs les plus importants dans le groupe marseillais, et là c'est sûr que j'avais pas à un moment donné pris connaissance de l'absence de Rongier, et c'est vrai que aujourd'hui quand tu regardes Marseille, c'est un des seuls joueurs de Marseille qui est arrivé à Marseille qui a eu une progression, tout ça. Finalement, la qualité de Marseille, c'est pas une équipe. Moi, je trouve que c'est pas une équipe avec des joueurs de qualité. Bon, après l'arrivée de Mehdi Benatia, le temps qu'il se mette en place, le temps qu'il fasse des choses, je pense que l'Olympique de Marseille, ça sera pas pour cette année. Je pense que là, ils vont jouer le milieu de tableau. Je pense qu'ils joueront pas les 5 premières. Ils ont pas les qualités. Les joueurs n'ont pas les qualités pour progresser. Et c'est pour ça que Lyon a plus de joueurs à fort potentiel et des joueurs de plus
que Marseille. Ils ont sorti le chéquier aussi, Lyon. Ils avaient besoin de sortir le chéquier, même si c'était contrôlé par la DNCG. J'arrive toujours pas à comprendre la DNCG qui était contrainte.
Personne n'a compris.
Là, ils n'étaient pas trop contraints, visiblement. Ils ont pu acheter des joueurs à 5 ans. Je crois que la facture globale de ce mercato, c'est 50, plus de 50 millions.
Ouais, c'est de la folie.
Bon. Après, je pense que Marseille est en chute.
C'est facile à comprendre.
Il y a trop de changements. Je crois que, j'avais lu un truc, c'est que depuis Longoria, avec le talent qu'il a, il y a plus de 160 mouvements en 4 ans et demi.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup pour garder une structure d'équipe, pour garder une ossature, en fait.
Beaucoup le disent.
Donc c'est ça le vrai problème de Marseille, c'est que je crois que la durée moyenne depuis Longoria, ça doit être même pas un an. Si on regarde les mouvements dans cet effectif, c'est sans arrêt, c'est une lessiveuse, en fait. Ouais. Donc on n'arrive pas à structurer un schéma tactique, puis les blessures, les machins, et puis Marseille n'a pas de fond de jeu. Il y a Rongier qui est pas là. On sait pas on connaît pas le style de jeu de Gattuso. Il se cherche un peu. Je sais pas. Et puis à côté de ça, il y a un centre de formation qui est fantomatique ou quasi.
Ouais.
Donc avec ça, il y a pas de bonne rotation, je dirais.
Bah, ils ont gagné contre Paris. Ils sont qualifiés contre Paris en Gombardella. Quand tu parles de la formation, mais aujourd'hui, quand tu regardes la Gombardella hier, ils sont passés à la casserole. PSG.
Ouais, mais la Gombardella, il y en a combien qui arrivent pro? Il y en a combien qui arrivent dans le championnat?
C'est autre chose.
Non, mais ça, c'est Marseille, le problème de Marseille, c'est que au niveau des jeunes, c'est toujours au niveau de la gestion, au niveau joueur, il y a toujours eu des recrutements. Tu regardes les Mamad Niang, les Didier Drogba, tu vois, c'est toujours été des joueurs qui ont été achetés. Ils ont pas de jeunes à part Samir Nasri.
Il y a eu quelques valorisations de joueurs quand même qui sont partis, qui se sont bien exportés dans le championnat.
Ouais, mais quand
Ribéry quand même.
Ouais, mais non, mais Ribéry il vient de Turquie, il vient pas de c'est pas un produit de la formation. Quand tu parles
mais tu parles de Drogba non plus, c'est pas un produit de la formation.
Mais c'est pour ça que je parle, quand t'as des arrivées, et surtout quand t'as des arrivées comme Longoria y fait, automatiquement tu travailles pas sur les jeunes, tu travailles sur un potentiel. S'il y a autant de mouvements de transfert, il y a du business. Ce qui les arrange, c'est faire du business.
Le business, ça marche pas parce que t'achètes des joueurs 10, tu les revends 7. Ouais. T'as Malinovski qui a été acheté 10, tu revends 7, il y a pas de valeur ajoutée. Ouais. Je veux dire,
Marseille perd beaucoup.
On perd beaucoup sur les échanges. Guendouzi, Marseille devait le vendre, je sais pas combien, il était valorisé l'année dernière à 25 ou 20. Ouais. Il est vendu 12 plus des bonus ou 15.
Quand tu prends Guendouzi à Marseille, c'est un joueur moyen. Tu prends pas Guendouzi, t'as autant de joueurs de potentiel, des joueurs de plus-value. Après, faut pas te demander, quand tu le payes 25 et tu le revends 12, c'est parce que...
Valoriser 25.
Ouais, mais bon, après, il y a des montages
financiers. À l'époque.
Ouais, mais il y a des montages financiers qui sont faits. Après,
c'est tout ça pour dire que Marseille, c'est un canard sans tête. On a beau cisailler le coup. Il part, on sait pas où, mais bilan, il est 8e. À 7 points de Brest qui joue mieux, je dirais même que le Havre joue mieux que Marseille pour l'instant.
Ah ouais, le Hack.
Le Hack qui est surprenant, et puis espérons que Lyon revienne un peu parmi nous aussi dans le
du classement,
j'espérais bien. Ouais. Parce que c'est bien de voir Brest, mais en Ligue des Champions, Brest comme Dortmund ou Barcelone, ça fait quoi?
Ouais, on a Mourad qui nous écoute et qui nous dit, Augustin, que Rongier c'est le symbole du manque d'ambition de l'OM. Tu en penses quoi?
Ouais, pas faux. Rongier, c'est un métronome, c'est le seul qui est là depuis 4 ans, 5 ans. qui est constant, même s'il a, dans le schéma de Marcelino au début de l'année, il était un peu, il savait pas où trop se mettre. Bon, et là, il est blessé, on voit que c'est un manque pour l'effectif. Ouais.
Réaction Moha, on va retrouver aussi sur la caméra réagir concernant Marseille et Lyon.
Je sais pas si je suis à Marseille ou si je suis dans les studios de BRFM parce que Rongier
c'est
d'un
pas
bon
incompatible.
Niveau,
hein.
Non mais c'est vrai que c'est pas incompatible, mais Rongier d'un bon niveau, je trouve ça un peu triste pour l'Olympique de Marseille de voir se rabattre sur un niveau comme celui de Valentin Rongier. Mais au-delà de ça, je vais même pas l'incriminer en tant que premier fautif dans la situation marseillaise. Donc quand on parlait de rotation et de changement dans l'effectif marseillais, c'est plutôt dans les idées de Longoria niveau tactique et niveau entraîneur en fait qui veut ramener dans la cité phocéenne. Quand il passe de Marcelino qui a été critiqué parce qu'il n'y avait pas assez de travail, que c'était pas assez intense selon certains joueurs, certains cadres, il nous ramène Gattuso qui est vraiment un espèce de tueur à gages qui sait que crier sur ses joueurs, qui a eu aucun fond tactique à Milan, en Italie ou même quand il était de passage en Espagne. C'est vraiment le néant total. Donc je peux comprendre Boula quand il dit qu'il n'y a pas autant de viviers talentueux du côté de Marseille ou que même la formation n'est pas folle. Par contre, ramener un entraîneur qui n'a aucune base tactique, qui est uniquement là pour crier sur des gens, je comprends pas le projet sur le moyen long terme.
Souviens-toi, Sampaoli criait sur les gens, ça a plutôt marché.
Oui, aussi.
Marseille, ils aiment bien les gueulards un peu sur le banc de touche, des gens qui sont gestuels, qui sont
un peu cette
qui animent
Grinta,
un peu derrière. Quoi.
Mais tu
pendant trois mois, ça fait plaisir aux supporters.
Sampaoli, c'est quand même quelqu'un qui a une grosse personnalité. Tu prends Tudor, c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité. Et tu prends un mec comme aujourd'hui Longoria, il prend des mecs. Il avait trop peur de ces mecs-là et il a préféré prendre un Marcelino qui pouvait le. C'est pour ça qu'ils ont fait autant de mouvements. Les entraîneurs, ils ont laissé faire. Mais tu prends, ça marche pas avec Tudor et Sampaoli. Tu fais pas venir des joueurs que moi j'ai pas envie de prendre. Et ça, le problème de Marseille, c'est ça. Moi, quand je regarde la gestion avec moins de budget, Rennes, quand tu regardes. Quand tu prends Kalimuendo, tu le payes 25 millions, tu te dis, bon, c'est un joueur que je vais prendre à Marseille. Pourquoi ils ne mettent pas 25 millions sur Kalimuendo pour le faire venir à Marseille? C'est venir des joueurs comme ça, au moins tu as plaisir d'avoir des joueurs de plus-value.
C'est vrai, mais Kalimuendo ne serait pas venu parce qu'il est de Paris. Je pense qu'il aurait eu du mal à signer un contrat.
Non, bah, écoute, il y a pas mal. Bah, Jérôme Leroy, Jérôme Leroy a formé au PSG, il a signé à Marseille.
Il y a plein de joueurs qui
ont déjà fait deux saisons.
Il y a pas de mouvement des deux clubs quand même.
Et puis, comme les dernières années, je pense que c'est un peu plus compliqué.
Non, mais non, parce que, mais non, pas du tout. Parce que faut que tu saches que quand le joueur, à un moment donné, il est dans la. Quand il a sa carrière qui est en jeu, il est prêt même à signer dans le club ennemi. Et tu peux pas. C'est quand même, ça reste quand même un grand club. Quand tu signes à l'Olympique de Marseille, c'est comme si tu signais au PSG. C'est après ce qui est.
Non, mais. En fait, l'effectif de Marseille.
Au niveau aura, mis à part les mauvais résultats, la mauvaise gestion du club. Quand même, Marseille, ça reste Marseille. C'est pas n'importe quoi, comme club. C'est quand même, ça reste quand même.
Mais c'est attirant pour toi, Boula, aujourd'hui, Marseille, pour un jeune joueur?
C'est l'Olympique de Marseille.
Je pense que l'année dernière, oui. Je pense que cette année, moins. Mais le foot, c'est pas une science exacte.
Bien sûr. Ça change tout le temps, Augustin.
Voilà.
On a Solal qui aimerait réagir. On va partir du côté de Rome pour retrouver Nasser aussi.
Oui, quel plaisir d'entendre les si bons chroniqueurs. Surtout, voilà. Il y en a qui
Solal.
Visent pas forcément par humilité, mais il y en a qui ont côtoyé ce Marseille-là. Au plus proche des joueurs dans les vestiaires, même pendant les moments importants qui font partie du plateau. Et par rapport aux vidéos que moi j'ai pu voir de cette période-là, je trouve qu'il y a une passion qui est morte. Pour moi, la médiocrité, elle commence là où les passions meurent. Il y avait encore quelque chose à toucher du doigt, peut-être pas à aller chercher, mais de toucher du doigt à l'époque d'un Marseille qui avait des joueurs qui venaient tout simplement de cette ville, des joueurs tels que Thauvin, qui pouvaient porter sur leur dos des supporters qui se reconnaissaient à cette image-là, ce symbole de la ville bleu clair. Et au final, aujourd'hui, 10 ans après cette période Thauvin, je pense que là, on a atteint un peu les bas-fonds de ce qu'on pouvait trouver ou même voir à Marseille. Je les ai vus très peu de fois jouer, mais malheureusement, des images que je vois, même des images que je compare, Boula, tu pourras en attester, il y a quelque chose qui s'est perdu, une certaine magie.
Il a tellement raison, c'est que même Thauvin a fait des appels du pied à la direction marseillaise pour vouloir rebosser à Marseille, Ayou aussi. C'est des gens qui auraient fait du bien. Alors peut-être qu'ils ont peut-être perdu peu d'aura par rapport à l'époque, mais pas d'aura dans le vestiaire.
Le 0153483000, on retrouve Nasser. Bonsoir Nasser.
Buonasera a tutti, mes chers amis.
Comment ça va, Nasser?
Quel plaisir de vous retrouver.
Nous aussi, Nasser. Marseille, c'est pas trop ça.
Bon, Marseille, c'est pas trop ça. Et puis, on le voit ces derniers temps, c'est toujours en dents de scie, l'Olympique de Marseille. On pensait, à un moment donné, surtout au début de période, avec cette frappe sur la barre. Et puis ensuite, eh ben, ils ont sombré. À l'image de Samuel Gigot, qui s'est, vous vous rappelez, c'est ce joueur qui s'était permis de refuser la sélection algérienne à l'époque. Bon, on le voit encore une fois, il n'est pas du tout dans le coup, à l'image de son équipe.
Ouais. Ah ben justement, là, on va essayer de retrouver peut-être.
Ça tombe bien qu'on est avec Nasser. Ça tombe bien qu'on est avec Nasser. Galtier, il a toujours voulu entraîner l'Olympique de Marseille.
Ouais, c'est un enfant du pays, hein.
C'est quand même, ça reste quand même un joueur de Marseille. Il a même entraîné à Marseille. Mmh. Il est tout de Marseille. C'est un des entraîneurs qui connaît la maison. Et je pense que là, il y a un autre projet. Il y a un autre projet à Marseille avec. Les gars de l'Arabie Saoudite qui sont prêts même à faire venir sur le projet, à faire venir Zidane sur un contrat de 2-3 ans. Mais là, c'est Zidane qui aura les clés vraiment du club au niveau de la gestion. Ce projet-là, il est d'actualité à mon avis. En ce moment, ça se discute dans les coulisses pour voir si l'Arabie Saoudite peuvent être l'actionnaire principal de l'Olympique de Marseille.
Ouais, ça, c'est notre histoire. On reviendra avec toi. C'est super, Boula, pour en parler parce que ça part dans tous les sens concernant l'Arabie Saoudite et l'Olympique de Marseille. Nasser, il reste avec nous. Nasser, on va marquer d'une courte pause. On va revenir avec Nasser, c'est promis, concernant le club de Brest aussi. Hop.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Beurre FM, 20h, 21h. Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Il n'y a pas que Boula qui connaît le sport et le football. Il y a aussi Amine avec nous ce soir. Faites comme lui. Appelez, composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Voilà. Il connaît pas que.
Non, surtaxé en plus.
Ah ben voilà, c'est ça. On appelle directement Augustin pour cette première. Ben oui, fait Augustin. C'est un. Ouais, ben lui aussi, on l'a recruté. Voilà, c'est un recrutement.
C'est du mercato. Un joker médical. Je suis joker médical.
Ouais, on pourra le retrouver avec Adil Farkan et toute son équipe. 19h-20h. Allez, place au second dossier de l'émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, c'est Brest à la troisième place à 36 points. Le premier, on le rappelle, Paris prend son envol, 47 points. Et le second, les Aiglons de Nice à 39 points avec toi, Moha. Eh oui, ils font du bien, justement.
Ils font du bien, c'est du beau jeu. Ouais, ils sont sur 10 victoires d'affilée actuellement. Enfin, 10 victoires, 10 matchs sans défaite, pardon. Ils sortent d'un match nul avec Nice, qui profite aux Parisiens, mais un match nul aussi dans l'avant-dernier match contre Paris. Ils affrontent Paris en huitième de Coupe de France ce mercredi. C'est une équipe qui joue un très beau football. Ils m'ont plu face à Paris un peu plus médiocre, qui m'avait un peu déçu quand j'étais au Parc des Princes, où Brest n'a pas eu peur d'affronter les Parisiens, les regarder droit dans les yeux. Il y avait un jeu vraiment offensif. Ils ont profité de certaines largesses défensives parisiennes où c'était une défense à 3 tantôt. Deux secondes plus tard, c'était une défense à 4, un peu instable avec Beraldo sur les côtés. C'est une équipe qui, en plus d'avoir un jeu alléchant, n'hésite pas à se projeter devant. Après, ils ne marquent pas beaucoup de buts depuis 3 matchs là. Mais je me souviens d'un 4-0 face à Lorient il y a quelques temps. C'était assez impressionnant. Et je trouve que c'est une troisième place carrément méritée. Il y a certains gros qui sont pas au niveau cette saison, donc pourquoi pas en profiter. Ouais,
c'est sur
l'histoire.
C'est sur un gros malentendu qui sont troisième.
Un gros malentendu.
Non, mais vraiment. On va voir si Nasser est d'accord avec ça. Après, c'est un jour à Brest et un tonnerre de spécialité.
On sait bien que tu respectes.
Mais après, c'est pas une ville très belle, ceci dit, mais bon, on s'en fiche. On n'est pas là pour ça.
Mais non, quand même, ça c'est sympa.
Non, je plaisante, on peut plus rien dire. Non, mais je veux dire, ils sont troisième parce que les autres sont pas au niveau. Notamment, on parlait de Marseille, notamment Lyon, notamment les équipes qui devraient être au moins dans les cinq, là, Monaco, tout ça. Donc non, c'est un jeu qui surprend l'adversaire, il a pas de complexe vis-à-vis des gros. En termes de budget, je pense qu'il doit être dans les cinq derniers budgets de Ligue 1. Donc troisième. Voilà, après c'est de l'endurance la Ligue 1, c'est jusqu'à la 38e journée.
C'est ça.
34e.
Alors Boula.
Après la
sœur aussi le pensait comme ça. Il est toujours là.
La qualité de Brest, c'est son directeur sportif. Après t'as Eric Roy qui fait un super travail, mais le travail il a été fait c'est un travail qui a été fait dans les 4 dernières années à Brest.
Ouais, il a fait du bon boulot, Roy.
Lorenzi, ça reste un des futurs gros directeur sportif du championnat français. Et puis quand tu regardes la gestion de Brest et quand tu vois les joueurs de qualité contre Paris, déjà contre Paris, tu les vois, ils perdent 2-0, ils reviennent à 2-2. Et là, tu sens vraiment un travail au niveau qualité de joueurs qui arrivent à Brest. Et tu prends Eric Roy qui est dans ce club tout simple, tout tranquille. Et ben, ils arrivent quand même à avoir des résultats, à en finir troisième. Et puis bon, le championnat de France, on dit qu'il est faible. Mais le problème, c'est que dans le championnat français, il y a des formateurs qui travaillent très très bien au niveau qualité des joueurs. Parce que c'est le fruit d'un travail de formation française. Et c'est pour ça que le marché français, il est beaucoup en Angleterre, ouais. Et beaucoup les Anglais, ils, ouais, achètent beaucoup français.
Ouais, on est leur centre de formation, voilà, d'ailleurs. Ouais,
on a l'impression.
C'est ce qui fait un petit peu la qualité du football français.
Oui, Solal.
Oui, vous parlez de centre de formation, ça va faire sourire. Alors, Augustin, moi et Boula, forcément.
Et pourquoi?
On parle beaucoup de Lyon, de Monaco, du PSG, de Marseille.
Et
on
de
parle
Brest.
De leur centre de formation sous toutes les coutures.
Brest, t'as vu.
Mais ouais, finalement, on oublie que dans la France, il y a une partie qui se trouve forcément au nord-ouest,
ouais,
où des irréductibles bretons subsistent. Et surtout, je dis ça d'un air moqueur, mais c'est alors, vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces bretons-là, qui au final, mais pour rejoindre Marseille, vont rejoindre ces clubs-là. Et c'était 18 bretons à jouer la Ligue 1 l'année dernière, ils sont 20, ouais, cette année, et la plupart jouent dans des clubs bretons. Forcément, il y a une présence de ces clubs bretons à chaque fois en Ligue 1, et je pense qu'on oublie un peu trop, donc félicitations à Brest.
On n'oublie pas, on n'oublie pas. On n'oublie pas, l'ancien président de la Fédération française de football.
Oui.
C'était la très machine, bon. c'était une machine bretonne.
Ouais. Très très bon.
Tous les dirigeants, tous les mecs en, ouais, équipe de France.
C'est pas médiatisé. Voilà.
Niveau
c'est
mais oui, mais si tu veux parler de la Bretagne,
t'as le droit.
Il y a le président de la Fédération française de football qui était Noël Le Graët, et c'est un breton. Et tu prends en Rennes le président Pinot, c'est pareil, c'est un breton. On connaît la qualité du travail et de la gestion de tous ces clubs-là.
Nasser qui est encore avec nous, hein, il va réagir. Concernant Brest, Nasser.
C'est parce qu'on est loin, mais oui, parce que le stade brestois, c'est le stade Francis Leblay déjà tout d'abord. Je pense que certains ou certaines sont déjà venus à Francis Leblay. Moi, j'ai eu cette occasion de pouvoir y aller. C'est une ambiance extraordinaire. Et puis c'est vrai, c'était le choc de la Ligue 1 ce week-end. Il faut quand même le rappeler. Il faut le souligner. Alors j'ai entendu dire tout à l'heure sur le plateau, alors je ne sais pas si c'est Moha qui a dit que c'était parce que les autres perdaient. Il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, à savoir que Brest quand même fait une excellente saison et c'est pas fini. On en parle hors antenne avec Bilal, hors antenne pour parler du stade brestois. Je vous rappelle que dans les prochaines semaines, on sera un tournant. On sera un tournant dans cette Ligue 1 parce qu'il y a quand même des matchs très intéressants, notamment dans 15 jours. Alors, bien sûr, il y aura le déplacement à Clermont, mais il faudra aller jouer contre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, et c'est là peut-être que le stade brestois pourra éventuellement penser à l'Europe, et c'est pour cette raison qu'on se donnera rendez-vous le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain sera l'affiche stade brestois Racing Club de Lens. En attendant, bah c'est vrai, le stade brestois, eh ben, elle a été cadenassée, hein, c'est une équipe de l'OGC Nice. On s'est pas régalé, parce que c'est vrai qu'il manquait des buts, mais moi j'ai trouvé une équipe brestoise, comme disait tout à l'heure Boula à juste titre, une équipe très intéressant. Je parle notamment de Satriano, je pense notamment à Del Castillo, je pense à toute cette équipe, à Les Menou qui fait une saison remarquable. Il faut savoir que le Stade Brestois a perdu une chute depuis plusieurs semaines. Moi, je dis chapeau au Stade Brestois et je suis ravi ce soir qu'on parle de ce Stade Brestois. Ça me fait plaisir.
Ouais, ah ouais. Ben ça le fait plaisir. Avant de donner la parole à Moha, on va revenir, Moha. Ne t'inquiète pas, le droit de réponse, tu vas l'avoir. C'est Rome qui joue face à Cagliari, hein, et Nasser est dans la capitale justement italienne. Ce soir, Nasser, le match. Ouais,
il y a Roma.
Ouais. Face à Cagliari, justement. Un petit mot sur ce match, Nasser, avant de nous quitter.
Oui, alors les compositions des deux équipes viennent de tomber, hein, entre l'AS Roma et l'équipe de Cagliari qui est 17e de cette Serie A italienne. L'AS Roma doit absolument s'imposer ce soir, hein, parce que sinon ils ne pourront pas rattraper le top 5 de ce championnat de Serie A. L'AS Roma, que je vous rappelle, José Mourinho est donc parti, c'est Daniele De Rossi qui est venu. Alors je vous donne bien sûr la composition de l'équipe de l'AS Roma: Patricio, Llorente, Castop, Mancini, Angelino, Cristin, De Paredes, Pellegrini, Grini, El Shaarawy, Lukaku et Dybala. Bien sûr, Aouar est sur le banc de touche. Je ne vous donne pas la composition de Cagliari parce que, mis à part Makumbu qui est bien titulaire du côté des Sardes, et l'arbitre de cette rencontre est Matteo Massenaro. Voilà, on va se régaler encore ce soir. Le coup d'envoi, 20h45, l'Olympico.
Merci,
en parlant du championnat italien, tu as le, ouais, petit Reda Belayen qui était à Nice. et qui a été transféré de Nice. Qui a été transféré de Nice à Hellas Vérone.
Oui.
Et c'est très dommage pour le championnat français que des jeunes comme ça obligés de partir.
Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes.
Je vais rebondir sur ce que dit Boula. Je rebondis sur ce que dit Boula parce que effectivement, on a un gros souci en France. Je vais citer quand même le petit Tapti qui vient de signer au Betis Séville, âgé de 16 ans. Ce garçon a été refusé dans tous les clubs en France, et je pense que tu dois le connaître, Boula. Et ce joueur, vient de signer professionnel du côté du Betis Séville. Donc, encore une fois, ça prouve qu'il y a aussi un souci par rapport à ça.
On est le centre de formation de tous les championnats
européens.
Je peux te demander, parce que tu me dis qu'il a signé à 16 ans. Est-ce qu'il a signé sur un mouvement de transfert? Parce que 16 ans, à part que ses parents, ils ont bougé aussi avec lui, parce qu'au niveau des lois, tu peux pas sortir un gamin de 18 ans.
Oui. C'est son papa que tu connais très bien, Boulard. C'est un garçon qui est à Saint-Denis, qui a joué au Red Star. C'est un garçon qui a joué du côté de la jeunesse d'Aubervilliers, je crois, même au Red Star. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît, hein. Il est de chez nous.
Et ce garçon, le fils à
Tati, voilà.
Son prénom, c'est comment?
On va le laisser tranquillement. Nasser, plus sérieusement, on a Adnan qui nous écoute.
Ah oui, exact, il a raison. Je vois de qui il parle, le fils à...
On parle beaucoup de Florent Maurice du côté de l'AS Roma.
En tant que joueur?
Oui, en tant que manager général.
De
Florent Maurice, Nasser. En tant que manager général. Les bookmakers mettent une pièce sur le français.
Si on parle de Florian Maurice du côté de l'AS Roma, et ben Time Sport est sur la pelouse de l'Olympico pour faire carrément l'émission juste avant la rencontre. Hein. Je vais vous dire, c'est la piste.
Attention, Nasser, hein, parce qu'il y a Moha et Augustin, ils sont déjà chauds hein, pour venir.
Ça y est,
avec. Ah là 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 là.
C'est une information, on va se régaler si c'est ça.
Ah ben oui, on va se régaler. On va se régaler. Moha, on poursuit. Merci à Nasser et à Hanan. Fait sourire, toi.
Nasser, il m'a un peu poussé à sortir de mon personnage où j'essayais d'être optimiste envers les Brestois et d'être positif, mais je leur en veux toujours de cette faute de Pierre Lesmelo qui n'existait pas contre le Paris Saint-Germain où il s'est juste taclé lui-même. Du coup, on souhaite le meilleur à Brest, mais de toute façon, Paris va les étrier en Coupe de France ce mercredi, ils auront tout le temps de préparer certains matchs.
Un peu trop confiant le Moha ce soir.
En championnat, ils les ont pas étriés. Après, s'ils doivent les étriers, après, c'est sûr, tu joues pas dans la même catégorie. Quand t'as des joueurs ou t'as des remplaçants à 80-100 millions sur le banc, tu te dis, c'est au contraire. Moi, je trouve honteux de leur part au parc PSG de pas pouvoir battre Brest. Et là, tu me dis, ils vont les étrier. Ça serait bon. C'est quand tu regardes les mêmes budgets. Si tu regardes le même budget, c'est sûr que aujourd'hui, le football, c'est le nerf du football, c'est l'argent.
Si Brest joue sans complexe, Brest peut tout à fait surprendre Paris, parce que Paris a tendance un peu à être un peu arrogant quand il s'agit d'une équipe
inférieure. Attention, la prochaine, c'est la Ligue des Champions. Hein,
voilà, en plus, il y a la Ligue des Champions. Donc, ça se trouve, en plus, ils s'y connaissent en huitième de finale et après, plus personne. Ils s'y connaissent.
Bon, Augustin,
j'espère.
Il en remet une couche.
Non, mais j'espère.
Vous êtes méchant.
J'espère pour que ce match. J'espère pour ce match-là. Qu'ils vont faire tourner et ils vont donner un petit peu de temps de jeu à des jeunes qu'ils ont formé, qu'ils ont été cherchés dans tous les clubs amateurs et qui sont sur le banc et qu'ils attendent de leur chance.
En tout cas,
parce que comme ils jouent en Ligue des Champions 400 jours après, j'espère que...
En tout cas, ils ont plus de chances de passer les huitièmes de finale de la Coupe de France que des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, quoi.
Ah, je suis pas d'accord.
Ah, pas d'accord.
Ah, pas du tout.
Bon, on verra.
Allez, vas-y.
Là, il y a un esprit de revanche. Rien à voir. Je reviens juste sur ce huitième de finale. Il y a un esprit de revanche. Je pense surtout à Bradley Barcola qui a été expulsé de manière assez injuste. Là, si Paris ne se ressaisit pas, autant arrêter la saison tout de suite et pas se.
Mais statistiquement, ils sont plus allés au-delà des huitièmes de finale en Coupe de France qu'au-delà des huitièmes de finale en Ligue des Champions.
Mais bien sûr. Mais après, je vais pas vous mentir, Brest m'inquiète un peu plus en huitièmes de Coupe de France que la Real Sociedad. Hein. C'est juste une équipe qui peut, d'un côté, regarder Paris droit dans les yeux et les bouger. Paris en Ligue des Champions.
Et la Real Sociedad, non. Et la Real Sociedad, c'est attention.
C'est plus la Ligue des Champions. J'ai moins d'espoir, j'ai moins d'attente cette saison-là où je suis un peu moins stressé.
Tu le disais la dernière fois.
J'ai vu l'ambiance dans le stade de la Real Sociedad. Il y a vraiment tous les supporters qui sautent en même temps. Tout le stade tremble.
Bien sûr.
Et je me suis dit, mais là, Marquinhos à la 87e, il va faire un AVC dans ce stade-là.
Il y a plus d'ambiance à 35 000 spectateurs à la Real Sociedad que 45 000 à Paris avec
PSG,
avec le Musée d'Orsay comme ambiance, la médiathèque comme ambiance.
Après, je suis pas inquiet avec le coach qu'ils ont Paris pour le Real Sociedad. Je suis pas inquiet. C'est une qualif sûre.
De quoi qualif sûre. Ok, c'est une qualif
sûre. Ok, vous verrez.
Ok,
vous verrez.
Moi je crois mes yeux, français en avant.
Moi je me prononce pas, je reviens juste sur le tag de l'ambiance, ça se fait pas parce qu'on nous supprime.
On va revenir sur la dernière partie de cette émission. On parlera, c'est promis, de la Champions League et du Paris Saint-Germain. À de suite.
Time Foot spécial Cannes 2024 revient dans un instant. Heure FM, 20h, 21h, Time Foot spécial Cannes 2024 avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Il a déjà la tête à la Ligue des Champions. C'est notre réalisateur Solal qu'on pourra retrouver jusqu'à 23h avec Vanessa qui arrive. Elle est déjà prête, Vanessa. Elle nous attend. Oui, elle vous attend, chers auditeurs et auditrices. Le 01 53 48 3000, c'est le dernier dossier de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, le pressing, il faudra le faire justement. Joue au pressing face à la Real Sociedad et aussi sans oublier Brest, y compris toi Boula, parce qu'il jouait bien à son époque, Amine, qui est avec nous. Bon joueur de foot, Amine.
Exceptionnel,
Eh oui, ça redonne le sourire à Boula. Augustin, le Paris Saint-Germain, il voulait pas se mouiller,
Il voulait pas se mouiller, on parle plus d'étrier la Real Sociedad.
Non, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai vécu beaucoup trop de traumas en Ligue des Champions.
On est d'accord.
Pour être confiant, franchement, on pourrait jouer contre.
Non, mais sois confiant certainement pour la Coupe de France, c'est sûr.
La Coupe de France, selon
toi. À la rigueur. Mais la Ligue des Champions.
Non, mais la Ligue des Champions, je me fais juste pas d'espoir cette saison.
Mais même les dernières saisons, d'ailleurs.
Non, les dernières saisons, franchement, quand il y avait un mec qui avait 8 ballons d'or, le meilleur dribbleur de l'histoire de son pays et le meilleur jeune de l'histoire de l'équipe de France, je pensais quand même qu'il y avait moyen de le faire, mais bon, il y en avait un qui courait pas et l'autre qu'on le voyait pas, peut-être parce qu'il était assez petit et qui courait, selon certains. Mais non, Ligue des Champions, je suis pressé de voir ce qui va se passer. Ce match, pour moi, va être le tournant, comme chaque saison, mais dans cette saison-là plus particulièrement, parce que on va peut-être avoir l'annonce du départ de Kylian, peut-être après, avant le match, peut-être que Paris va se qualifier et que, vu qu'ils sont pas attendus au tournant, ils peuvent faire quelque chose cette saison. Non, franchement, je préfère ne pas avoir d'attente. De toute façon, comme l'a dit Nasser, c'est un projet sur 6 ans, donc je vais pas m'empresser.
De 6 ans à partir de cette année ?
J'espère.
Ah bon ?
Pourquoi ? Depuis 6 ans déjà, c'est ça ?
Déjà, depuis quand même quelques années quand même.
Non, mais là, je pense que Luis Enrique est
un projet depuis 6 ans.
Le représentant de ce nouveau projet. Mais après, comme l'a dit Boula, il y a 180 millions sur le banc. C'est ça qui me stresse un peu, parce que j'ai beau l'encenser à chaque fois, parce qu'il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, il connaît très bien le football. Mais des fois, il met Kolo Muani titulaire alors qu'il enchaîne pas rien. Il enchaîne pas. Il joue en Timberland en fait, Kolo Muani, depuis le début de la saison.
C'est pas évident quand t'achètes un joueur 90 millions et t'es obligé de laisser sur le banc. Et tu prends. Moi, ce qui m'intéresse dans leur projet aujourd'hui au PSG, t'as une personne qui s'appelle Campos et qui arrive à mettre en place cette cellule de travail. Pour l'entraîneur, c'est sûr que aujourd'hui Kolo Muani, il est là, tu peux pas perdre de l'argent, tu peux pas. Et en plus de ça, il a le salaire qui va avec, il a 90 millions. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que au moment, dans les matchs importants, je pense que les décisions, ils seront pris peut-être pas dans l'intérêt de Kolo Muani, aujourd'hui c'est leur qualité de championnat, tu sens que ils peuvent jouer, c'est facile. Mais quand tu vas jouer le Real Sociedad, là tu verras vraiment l'équipe type qui va mettre.
Bien sûr.
Tu prends Asensio, les gens ils critiquent, mais c'est le seul qui apporte le côté technique au niveau de la passe et au niveau du but. Aujourd'hui, t'as pas un créateur offensif. Le seul créateur qu'on a au PSG, c'est Asensio.
Et il y en a un qui joue la Coupe d'Asie
en qualité,
encore,
quand même.
Kanginli.
Oui, mais Kanginli, il faut que tu saches, c'est un côté droit. Et le fait de mettre Barcola à droite, il ne peut pas jouer à gauche, Kanginli.
C'est vrai, mais,
du coup, mais après, dans la gestion. Dans la gestion de l'entraîneur, pour moi, quand ça va être les matchs très importants, bah, il mettra les 11 meilleurs.
Mais pourquoi les 11 meilleurs du groupe? Hein, Gonçalo Ramos, il coûte 80 millions aussi, vous la croyez, joue pas?
Parce que d'une, il fait n'importe quoi. Mendes, il
fait une déception, Gonçalo Ramos.
Mais après, c'est le choix du coach.
C'est tellement une déception que c'est le choix du coach.
J'ai posé la question à Campos, il m'a dit, c'est le choix du coach. Moi, à chaque fois qu'il est rentré Campos, tu sens que c'est un joueur de classe mondiale, même quand il joue avec l'équipe avec le Portugal. Mais tu prends même Kanginli, quand tu le vois contre l'Orient le premier match, tu sens que c'est une patte gauche, il peut effacer n'importe qui, il peut te mettre la passe d'est. Et le football, c'est rempli de milieux offensifs, et aujourd'hui il les a, mais
c'est rempli de milieux offensifs, mais ça manque de créateurs.
Après faut que tu saches que Barcola, C'est Mendes qui l'a. Ils ont pris Barcola. Moi, pour moi, ils ont pas. Si tu prends soit Colomani, soit Barcola. Maintenant, faut savoir si le mouvement il a été fait par le talent du joueur. Ça, on le saura à l'avenir. Bon, Colomani, c'est aujourd'hui, ça reste un joueur qui joue pas à son poste, parce que pour moi, c'est pas, au départ, ils l'ont mis avant-centre, et ça a été carrément un truc. Ils mettent Kylian, ils le mettent avant-centre, c'est un couloir. T'as des joueurs, ils sont pas à leur poste. Et je pense que le coach, il le sait très bien, Enrique, et je pense que Enrique aujourd'hui c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qui va les emmener en demi ou en finale.
J'espère.
0153483000, c'est Jouba. Jouba, notre journaliste consultant. Bonsoir, Jouba, comment ça va?
Bonsoir messieurs, je suis content de vous retrouver en ce lundi ensoleillé ou pas. Moi je suis pas sur Paris, mais voilà, en tout cas ici c'est ensoleillé.
Non, c'est pas trop ensoleillé, je sais pas. Hein. Toi oui, ouais, hein. S'il est ensoleillé, c'est que lui il a du soleil.
Et écoutez, il y a eu des choses intéressantes de dites que je trouve quand même assez dommage et dommageable. C'est quand même les rumeurs de départ à ce moment-là pour Kylian Mbappé. Ça vient troubler le club. Ça vient trouver l'équipe, le collectif, ça rajoute une pression psychologique. Je trouve pas ça cool, en fait, pour le PSG. Donc ça va se jouer, ce match face à la Real Sociedad, qui est sixième du championnat de Liga, la première ligue espagnole, en 37 points en 23 matchs. Donc c'est une équipe, on va pas se mentir, qui est pas dans le podium, qui est tout près du ventre mou, qui n'est pas a priori flamboyante, qui peut toutefois poser des problèmes au PSG. On le rappelle, elle a fini première de son groupe de qualification. Attention, mais là il faudra que les amis du PSG restent justement concentrés et ne pas.
Ils sont pas en huitième pour rien, la Real. Hein. Ils sont pas là pour faire de la figuration. Pour faire de la figuration contre Paris. Attention, le Paris, il y a des clubs qui veulent les taper, entre guillemets. Ils sont attendus.
C'est sûr. Et puis je pense que la Real Sociedad, qui justement là traverse une période moyenne en Liga 6ème, on le disait, va vouloir aussi créer l'exploit et s'imposer un peu comme les mecs qui ont chatouillé, embêté cette équipe-là de Jorge Mendes, non, de Luis Enrique, tu vois. Donc voilà, on le disait, là il y a eu du renforcement, mais trop peu, je pense. Pas suffisamment, notamment au niveau défensif, on le disait la dernière fois. Donc là, il faudra pas que le PSG se manque, hein, parce que je vous le dis, hein, en plus avec les rumeurs de départ sur Mbappé, les machins, ça peut faire un gros coup psychologique qui pourrait affecter tout le collectif là. Donc attention.
Non. Le défenseur qu'ils ont pris, moi, le match je l'ai vu à Strasbourg. Je peux te dire que j'ai bien vu ce défenseur là. Bah, heureusement qu'ils ont pris ce défenseur-là, parce que défensivement c'est costaud, c'est plus costaud que Skriniar. Déjà je suis content qu'ils ont pris t'as la preuve, ils sont conscients qu'ils avaient un problème dans l'axe côté gauche. Ils ont pris ce joueur là qui est plus solide défensivement, et je pense que l'équipe, ça va être une équipe dans les mois à venir, qui est une équipe qui, ça va être une belle équipe du PSG.
Je pense que c'est quelque chose d'assez certain.
Et Augustin,
c'est pas quelque chose qui est censé perturber le club, selon déjà nos confrères du Parisien, qui expliquent que le PSG est armé psychologiquement et économiquement à départ d'Mbappé. Déjà la partie psychologiquement elle m'inquiète un peu, franchement j'ai l'impression que on est marié avec lui, on est en couple, il va prendre la moitié des affaires de la maison quand il va partir, mais de toute façon Paris a existé avant lui et Paris va exister après lui. Et de toute façon, il y a des, cette équipe parisienne, elle est tellement remplie de jeunes joueurs qui veulent vraiment jouer cette Ligue des Champions, ouais, qui ont vraiment envie de prouver. Donc moi, je suis Barcola, je suis Vitinha. Bah, je vais plus penser à ma Ligue des Champions, à avoir une, à faire une très bonne prestation, impressionner mon coach qui peut me mettre sur le banc à tout moment, que me dire ah non, Kylian va partir, Kylian va partir. De toute façon, là, la stratégie du PSG sur cette saison, c'est de faire all-in sur la Ligue des Champions. Ils ont encore Kylian pour cette saison, et dans tous les cas, s'il va partir, bah ce sera pas une grande perte, dans le sens où il faut renforcer le, la défense, renforcer le milieu de terrain, ça sera une grande perte.
Ça sera pas une grande perte, pardon, mais.
Mais ça sera une grande perte pour moi. Ouais, c'est une grande perte.
Non, mais si tu confies les clés de la maison l'année prochaine à Kolo Muani, Barcola et.
Cette saison, il a pas les clés.
En attaque. Enfin, quand même. Enfin, tu peux pas dire
qu'il a aucune clé. Qui est prise à deux à chaque fois sur lui. Non, mais. C'est pas lui qui va débloquer le match.
Ce que je veux dire, c'est.
Kylian.
C'est quand même.
Tu regardes les passes décisives et buts.
Non, non, mais passes décisives et buts, peut-être. Passes décisives et buts. Mais en Ligue des Champions, enfin, monsieur qui va partir, faudra peut-être lui faire une compilation.
Déjà, je pense pas. Moi, je pense qu'on on parle d'un joueur. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il partira pas déjà. Ah. Il va reprolonger à Paris.
Bien sûr.
Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça fera comme tous les grands joueurs des clubs.
Non, parce qu'il veut gagner la Ligue des Champions. Il veut gagner la Ligue des Champions.
Mais
c'est pas à Paris visiblement qu'il peut la gagner, visiblement.
Si au contraire.
Dans son projet de vie,
il va la gagner avec le Paris Saint-Germain quand même.
Aujourd'hui, Kylian, ça reste quand même une figure sportive du patrimoine français.
Oui.
Et aujourd'hui, PSG et même Kylian, aujourd'hui, ça reste quand même un joueur que toute la France attend de prolonger à Paris. Et Kylian le sait, sa mère le sait, Wilfried le sait. Tu peux pas aujourd'hui dire que Wilfried.
Tu peux pas dire.
Après,
il va pas rester jusqu'à 35 ans à Paris, quoi. Il veut gagner la Ligue des Champions. Visiblement, Paris lui propose pas gagner la Ligue des Champions.
Tous les vrais joueurs d'Europe. La plupart d'Europe, tous les grands joueurs, ils sont restés dans leur club jusqu'à la fin. Partis après, une fois que leur carrière elle était finie, ils sont partis. Comme Messi, il a fait Barcelone, voilà, il est retourné à Barcelone.
Ils en ont gagné. Solal, rapide, avant de retrouver, parce qu'on a Jouba et d'autres auditeurs aussi. Sur le Paris Saint-Germain.
Faut pas oublier que Kylian Mbappé, ça fait partie de ces joueurs qui est un joueur à gros titre. C'est-à-dire que peu importe où il va, la lumière va donc être projetée vers lui.
Bien sûr.
Faut qu'on profite de ce joueur-là un maximum. Faut pas qu'on soit non plus dans cette position de supporter de PSG.
Est-ce qu'on n'a pas trop profité, justement?
Il nous a pas donné.
Exactement.
Maintenant, c'est on est gavé, qui partent où ils veulent. Faut quand même reconnaître un minimum que Mbappé nous a fait vibrer à tel point qu'on a consacré des moments, de l'énergie, de l'amour pour ce club. Et c'est pas au moment où il compte partir qu'il faut se dire soudainement. Bon, allez, ce joueur qui a fait les gros titres, ça nous a amusé pendant un moment, on se barre.
Ses intérêts financiers vont clairement à Paris, ses intérêts sportifs vont peut-être ailleurs.
En tout cas, c'est la première fois dans le football mondial où tu as un joueur que les grands clubs. Normalement, c'est un joueur qui il y a longtemps qu'il aurait dû signer. Tu peux pas attendre en fin de contrat ou janvier. Parce que là, aujourd'hui, il est libre, il peut signer dans n'importe quel club au monde. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui c'est pas prononcé, c'est Kylian, il va rester.
Petite nuance, Jouba, c'est un des seuls joueurs à être maintenu au bon niveau. Parce qu'il y en a plein qui sont restés dans leur club, qui avaient une super carrière, une super saison, avec des buts, des passes D, et qui ont décidé de rester 2, 3, 4 ans.
Mais c'est pas évident.
Mbappé a la particularité de faire des saisons excellentes chaque année.
Non, mais c'est pas évident pour un entraîneur et pour un club, et pour les joueurs qui jouent avec lui, de pas savoir où il va.
Jouba, le dénouement, c'est dans quelques mois.
On va la voir. Jouba.
Oui, il y a deux choses quand même. Il faut rappeler que moi, je suis pas d'accord. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Moha. Nasser Al-Khelaïfi n'est pas du tout prêt à son départ. Et dans ses dernières sorties médiatiques, il est pas prêt à cette hypothèse-là. De ce qu'on voit, de ce qu'on lit, nous, on se dit que Nasser Al-Khelaïfi est totalement Mbappé dépendant. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est les JO à Paris. Et c'est pour ça que Mbappé était un peu, parce que ça faisait partie en 2022 quand il prolongeait du deal. Parce qu'il devait être l'égérie des JO 2022 dans un accord tacite avec Emmanuel Macron, avec Nasser Al-Khelaïfi. Il y a aussi cet aspect-là. Et attention, là, Mbappé, c'est un peu bizarre ce moment où cette info sort. On ne sait pas, encore une fois. J'ai plus qui, vous savez, les gars qui l'a sorti, cette info, je ne l'ai plus en tête, cette info de il aurait donné son accord au Real, tatati, tatada. Mais en tout cas, c'est bizarre, mais il y a ces JO-là, et pour moi, on est très loin, je pense, d'une officialisation à ce moment-là, parce qu'il mettrait un pied de nez à toute la com autour des JO, à toute l'instrumentalisation de Mbappé autour des JO et du PSG et de tout ce truc-là. Donc voilà.
Je rebondis sur tout ce qui a été dit parce que il y a mépris sur ma pensée, je pense. Alors je critique pas du tout Mbappé, je dis pas que c'est pas un grand joueur, loin de là.
Alors
c'est sûrement le joueur qui représente le plus ma génération, mais ma génération, moi, je me souviens en 2011, elle était représentée par le monsieur dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Neymar Junior, quand on disait que ça manque de créateurs. Neymar Junior en 2020, c'est le meilleur joueur sur le Final 8 de la Ligue des Champions. Pour ceux qui se souviennent très bien, il y a une performance exceptionnelle face à l'Atalanta.
Ouais.
Peut-être qu'il marque pas, peut-être qu'il fait pas assez de passes décisives selon certains. Mais lui, par contre, le palmarès de Kylian Mbappé, c'est faire une passe dans les bras de Manuel Neuer en finale de Ligue des Champions. Je veux bien qu'il y ait des performances exceptionnelles, qu'il t'ait marqué Solal, mais moi, il m'a marqué uniquement avec l'équipe de France. Hein. Il m'a jamais marqué avec Paris. Quand il s'est fait humilier par Rashford au Parc des Princes. En ayant une performance lamentable face aux petits de Manchester United, c'était pas mon joueur préféré Kylian Mbappé à ce moment-là.
Ouais.
Mais je lui donne tout mon respect parce que c'est un athlète hors norme, parce qu'il peut marquer à n'importe quel moment. Il l'a prouvé face au Real la saison passée. C'est un grand joueur, mais maintenant,
d'accord,
en phase finale, quand il faut marquer des buts pour le PSG, une équipe qui est plus faible que l'équipe de France, équipe qui a moins de ressources mentales que l'équipe de France, bah, il a pas été là, Kylian.
Il n'était pas là, selon toi.
Après, il faut contextualiser. C'est que Kylian Mbappé, il était un peu dans un loft cet été, donc il s'est pas entraîné de façon normalisée par rapport à tout l'effectif. Donc déjà, on l'a mis de côté. Je sais plus combien c'était, 15 jours, 3 semaines. Donc déjà, je suis pas sûr qu'il y a eu la même intensité de son entraînement perso qu'avec le groupe. Donc déjà, on jouait déjà avec le feu, déjà avec ce joueur. Tu le fragilises pas en s'entraînant, en le laissant s'entraîner seul.
Ouais,
donc c'est pour
sûr.
Ça que Stani, il est peut-être un peu moins en deçà un peu par rapport aux dernières années.
Je parle pas d'en deçà, je parle vraiment de la Ligue des Champions.
Oui, mais en deçà globalement.
Après, quand tu parles,
puisque c'est le marqueur la Ligue des Champions.
Quand tu parles de Neymar, moi, je pense que Neymar, c'est un au niveau qualité, c'est exceptionnel. Mais
au niveau
contre,
de fait aussi.
Au niveau travail, rigueur.
De la lambada.
Je préfère un Kylian Mbappé parce que Kylian, quand même, ça reste le bosseur, le travailleur, le mec en exemple, même en termes de communication ou d'image, ça reste quand même quelqu'un qui représente le sportif, mais le sportif classe d'un joueur qui est au niveau mentalité en dehors du football, c'est quelqu'un quand même qui a une image et il fait attention à son image. Tu prends Neymar, c'est pas un joueur qui nous a fait plaisir en termes d'image et de communication.
En termes de comportement, il y avait mieux à faire.
Voilà,
au mois d'avril.
C'est vrai qu'on a pris un mec comme Neymar, mais si Neymar c'était le travailleur comme Messi ou le travailleur comme Cristiano Ronaldo, je pense qu'on aurait vu du grand Neymar. Grand Neymar, on ne pourra pas le voir quand tu vois où il finit.
Il y a des grandes stars qui n'avaient pas de respect pour l'institution à Paris. Vraiment. Il y a Neymar en fait partie. Je crois qu'il y a des gens qui se foutaient de l'institution à Paris.
Mais je veux bien, mais
même s'ils ont participé à l'image marketing.
L'irrespect de Neymar. Je rejoins plein de gens, mais pas que Neymar.
Non, mais les photos.
Verratti
aussi.
Mais plein de joueurs.
Tous ces joueurs-là n'ont pas respecté l'institution.
Pourquoi on va exempter Kylian de ces mêmes critiques-là quand ce mec-là faisait pas de repli défensif? Quand ce même mec-là, quand la Vitinha lui donnait pas la balle, il partait boudé, on se limite en sortant du terrain. Il y a des comportements à avoir. À un moment, je veux bien que ça soit un marqueur éthique, un exemple pour toute la jeunesse française. Mais ce mec fait pas d'effort pour Paris. Quand il cache même pas, niveau communication, je veux bien, il s'exprime très bien et il gère très bien sa communication
Par contre,
une communication favorable à son club à lui,
alors
elle est totalement inexistante.
Ouais.
Il laisse un espèce de flou.
Il veut prendre la bande passante, il veut faire un peu sa diva,
Mais ça,
on le sait depuis longtemps. C'est pas une nouveauté, ceci dit.
Je sais, mais il faut avoir les mêmes critiques avec Neymar qu'avec lui.
Non, Neymar, c'est pas faux. Ipanema à partir d'avril quand même.
Oui,
des photos et des machins.
Augustin Moët et Boula, j'avais une question juste avant la fin de l'émission. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'au PSG, on va plus faire de bruit autour du départ d'un joueur que de l'arrivée d'un joueur. Et c'est quelque chose qui s'instaure depuis, depuis pas mal de temps déjà. C'est-à-dire que, certes, l'arrivée des joueurs est médiatisée, mais certains joueurs jouent de leur départ et vont le surmédiatiser presque sur des années.
Ça fait partie du jeu aussi.
Ça fait des années qu'on tisse son départ, que ce soit pour d'autres joueurs aussi, Neymar, Messi.
On l'avait vu à une certaine époque aussi.
Ça fait vendre de la presse. Ça fait vendre de la presse, c'est ça.
Et puis ça fait faire des échanges dans les émissions. Ouais. On parle, on spécule. Depuis deux ans, le feuilleton Neymar, c'est rémanent. Ça revient, ça revient, et puis on oublie, puis ça repart.
Et pour finir, tu prends le président du Real, ça reste un des plus grands business au niveau mondial.
Florentino Pérez.
C'est quand même une machine en termes de businessman. Et aujourd'hui, si demain, et en plus de ça, il a des biens au Qatar, il a des rapports avec le cheikh Tamim. Et ça, je pense que c'est des discussions qu'ils ont tous les deux sur le départ d'Mbappé. C'est des grosses discussions qu'il y a les deux. Par rapport, qui sait qui aura le dernier mot, mais je pense qu'ils se respectent tellement, ces deux personnes, que peut-être aujourd'hui le président du Real il va peut-être le laisser à Paris. Parce qu'il y a trop de business derrière Kylian Mbappé.
Ouais, moi, pour terminer avec toi.
Niveau business, c'est un géant. Comme certains ont pu le voir récemment, le Real Madrid a signé un deal avec HP de la hauteur de 70 millions pour avoir le logo HP sur leur manche. Moi, clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est clairement un coup pour attirer Kylian et pouvoir se permettre, parce qu'il gagnera deux fois moins au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Après, pour essayer de nuancer son pseudo départ, je le vois pas quitter Paris après avoir ramené toute l'équipe de France, en laissant son meilleur ami Hakimi, en laissant Kolo Muani, son compère de la finale de Coupe du Monde. J'espère qu'il restera, mais ouais. Je pense que les marqueurs. Oui, son petit frère, bien sûr.
Sportivement, il a tout intérêt à partir. Ouais. Si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, il a tout.
Le débat pas, est relancé.
Il va partir cette
dans
antenne.
L'héritage,
pour lui, dans son intérêt sportif.
On verra bien.
Intérêt financier, par contre, je ne sais pas. Oui. En effet.
Un grand merci à Augustin pour cette première dans Team Foot spécial Coupe d'Afrique. Justement, on va en revenir justement longuement sur cette Coupe d'Afrique, parce qu'on ne l'oublie pas, elle est toujours avec nous, avec cette évolution du football africain. Avec Mohaus, un grand merci à toi, Boula. Un grand merci aussi à Amine de nous avoir accompagnés dans ce studio de Beurre FM. La suite des programmes avec Vanessa qui arrive. 21h-23h, un big up à la réalisation en la personne de Solal. Bye bye.
Retrouvez Time Foot spécial Cannes 2024 tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.